À la une, la dégradation des conditions météo qui devrait continuer ces prochains jours. Encore un épisode d'intempéries pour le début de semaine prochaine. Une vigilance orange forte pluie orage en vigueur sur le nord de la Grande Terre et Belep. Une messe pas comme les autres en l'église de Rivière-Salée. L'office du premier dimanche du carême était célébré avec le 15 du Pacifique. L'hippodrome Henri Millard à l'heure bretonne. Un fest-noz était organisé ce samedi soir avec tous les ingrédients pour ravir une centaine de convives. L'actualité nationale avec le salon de l'agriculture qui s'est ouvert à Paris. De nombreuses personnalités politiques sont attendues dans la plus grande ferme du monde. Dans le Pacifique, le 8e festival des arts mélanésiens aura lieu à Suva en fin d'année. Une annonce faite par le gouvernement fidjien. Le sport, le 15 de France restera-t-il invaincu dans le tournoi des Six Nations ? La route vers un grand chelem passera par un duel contre l'Italie ce soir. Et du football, Antoine Comboiré sur le chemin du retour en Ligue 1. Il devrait prendre les rênes du Paris FC, club à la lutte pour le maintien dans l'élite. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Je vous le disais en titre, vers une dégradation des conditions météorologiques. Il faut s'attendre à un nouvel épisode de précipitations ce dimanche et pour le début de semaine prochaine. Les derniers jours ont déjà été marqués par des pluies particulièrement soutenues. La tendance va se poursuivre avec des averses parfois orageuses qui sont attendues. Des vigilances, fortes pluies, orages sont en vigueur dès ce soir. Nous avons fait le point avec David Esposito, chef prévisionniste au Centre Météo France de Nouméa.
Déjà, si on revient sur la semaine passée, on a observé régulièrement d'importants cumuls de précipitations. On a relevé plus de 500 mm en une semaine sur Goro et Yaté. Ces conditions très humides, de fortes pluies, sont directement liées à la persistance sur la zone d'un vaste couloir dépressionnaire qui stagne du nord de l'Australie jusqu'à proximité de la Nouvelle-Calédonie, ce qui maintient un air tropical sur le territoire. Il s'ajoute à un alizé modéré bien humide d'est-sud-est qui concerne surtout le sud de la Nouvelle-Calédonie. Si on a pu observer une brève alcalmie surtout sur la façade ouest pour les deux matinées de ce week-end. La dégradation s'est déjà confirmée par le nord. Une persistance de ce mauvais temps, il va se généraliser à l'ensemble du territoire la nuit prochaine et pour la journée de lundi. Et il faut garder en mémoire donc tous ces forts cumuls de précipitations ont gorgé les sols d'eau. Donc il faudra surtout faire preuve d'une grande prudence pour tous les déplacements et pour l'amélioration. C'est vrai qu'elle est en vue à partir de mercredi au niveau général, voire mardi sur l'ouest. Et de plus, je pourrais rajouter du moins de notre côté, on va surveiller le creusement d'une dépression sur le nord du Vanuatu à partir du milieu de semaine prochaine qui pourrait bénéficier vraiment de conditions favorables à son développement et éventuellement se rapprocher du territoire d'ici une semaine à 8-9 jours. Donc voilà, c'est pas de vraie amélioration mais néanmoins un petit mieux à partir de mercredi et jusqu'à la fin de la semaine.
David Esposito, chef prévisionniste au Centre Météo France de Nouméa. Notez que ce soir, la majeure partie du nord de la Grande Terre est placée en vigilance orange, forte pluie orage. Cela concerne Yengen, Kumaka, Lagomen, Kone, Wegua, Poindimi, Ponerewin, Puebo, Poimbout, Poum, Tuo, Vo, jusqu'à Poya, et Wailou, ainsi que Belep. Le reste de la Grande Terre, ainsi qu'à les îles Loyauté et l'île des Pins, sont placés en vigilance jaune. La sécurité civile appelle la population à se tenir informée de l'évolution de la situation et si besoin à consulter les consignes préventives en cas de forte pluie. En ce premier dimanche du carême, c'est une célébration particulière qui s'est déroulé ce matin en l'église mémoriale 150e de Rivière-Salée. On voit ça avec vous, Lionel Sabot.
En effet, la messe dominicale était animée par les joueurs du 15 du Pacifique, l'équipe de rugby militaire qui a entamé il y a quelques jours une tournée en Nouvelle-Calédonie. Messe célébrée par le père Michel Toekidjo, qui marquait en quelque sorte le début des commémorations des 80 ans du retour du bataillon du Pacifique en Calédonie en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale. Le général de brigade Soubrier, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, était présent ce matin à Rivière-Salée.
Le 15 du Pacifique rentre dans le cadre des commémorations des 80 ans du retour des volontaires du Pacifique. Et dans ce cadre-là, j'ai souhaité donner du sens à ces célébrations en initiant finalement cette année mémorielle avec l'arrivée de ce 15, de cette équipe de rugby militaire qui finalement incarne le bataillon du Pacifique puisqu'ils viennent de l'ensemble des armées. Et surtout, ce sont des enfants du pays, des enfants de nos pays, puisqu'il y a des Polynésiens, des Calédoniens, des Wallisiens, des Futuniens. Et en agrégeant tous ces jeunes sportifs du 15 du Pacifique, finalement, on incarne l'esprit des volontaires du bataillon du Pacifique qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont revenus le 21 mai 1946 et pour lesquels on célébrera les 80 ans du retour cette année. Donc ça a beaucoup de sens. C'était un grand moment d'émotion. C'était une célébration, une messe qui était célébrée aussi pour nos anciens qui ne sont plus là, mais qui, j'en suis sûr, étaient auprès de nous pendant cette messe. Nos jeunes aussi qui sont toujours engagés au sein des armées, comme ça a été dit par le porte-parole du 15 du Pacifique, et très bien accueillis par le Père Michel, qui nous a vraiment accueillis chaleureusement. Et donc une messe qui a eu beaucoup de sens pour tous.
Présent également ce matin pour cette messe, le général de brigade Bellon, un moment fort pour celui qui avait commandé il y a quelques années ici en Calédonie le RSMA et qui depuis 2024 commande le service militaire adapté.
Bon, pour moi c'est un moment très fort parce que je partage les valeurs du rugby d'une part et en plus au SMA, l'une des valeurs qu'on demande à ces jeunes d'avoir c'est se dépasser. D'avoir le courage au-delà de leurs difficultés, d'avoir le courage d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir le courage de se dépenser, de défoncer pour leur propre avenir. Et grâce au service militaire adapté, ils trouvent des voies, un moyen de pouvoir créer du lien entre eux, s'inscrire dans un projet de vie. Ça, c'est fondamental. Et le rugby, ça porte tout ça. Et le 15 du Pacifique, alors il va fêter les 80 ans du retour des guerriers là, sur le pont des volontaires. Ben c'est un beau symbole aussi, ce rappel historique, cette mémoire qui doit être portée aussi par nos jeunes. C'est important parce que ces valeurs-là, elles sont fondamentales et pérennes. C'est aussi un moment de partage et d'échange aussi avec les volontaires. Je pense que c'est important de voir aussi qu'il y a des parcours de vie, des parcours de carrière qui peuvent se faire au travers de l'exemple de tous ces volontaires du 15 qui reviennent aussi au pays un jour ou un autre. Et ça, c'est important.
Le 15 du Pacifique incarne l'esprit du bataillon du Pacifique, disait il y a quelques instants le général Soubrier. Demain, le 15 sera en visite, et c'est tout un symbole, au Rimapensé, au camp Broche, le camp militaire de Plume qui porte le nom de Félix Broche, nommé commandant supérieur des troupes dans le Pacifique par le général de Gaulle le 24 septembre 1940 et qui quittera Nouméa le 5 mai 1941 à la tête du corps expéditionnaire qu'il commande à destination du Moyen-Orient, corps expéditionnaire qui deviendra le bataillon du Pacifique. Demain, les joueurs du 15 du Pacifique seront accueillis par le colonel Belbeoc, le chef de corps du Rimapensé, et qui assistait lui aussi à la messe ce matin.
C'est surtout une fête de famille, voilà. Et puis c'est aussi un hommage à l'engagement de ces jeunes, qui va se traduire au travers des matchs qui vont avoir lieu contre le Rugby Club Mondor et puis contre les Cagous. Alors, c'est une grande joie. J'ai eu la chance de croiser au cours de ma carrière militaire beaucoup de jeunes hommes et femmes combattants du Pacifique et j'ai admiré leur courage et leur fidélité et donc c'est une grande joie d'en retrouver certains aujourd'hui.
Et pour cette messe un peu particulière ce matin, familles et amis des militaires du 15 du Pacifique mais aussi de très nombreux fidèles se sont retrouvés à Rivière-Salée.
C'était une très jolie messe et leur animation était vraiment forte et puissante. On ressentait beaucoup d'émotions.
Pour moi, la messe, c'est aussi donc les valeurs du rassemblement, du partage. Donc c'est aussi des valeurs militaires, finalement. C'est les valeurs de la cohésion. Donc moi, j'ai ressenti un esprit d'équipe durant cette messe, un esprit de corps, on va dire, comme dans le milieu militaire. Donc voilà, on formait tous un tout, j'ai trouvé, surtout lorsqu'on chantait ensemble. Donc c'était vraiment agréable.
C'était un moment de partage, un moment de réunion avec les différentes communautés. Et aujourd'hui, en fait, c'est sous l'égide du 15 du Pacifique et c'est très plaisant. La famille est très contente parce qu'en fait, on se retrouve avec des anciens du 15 et le fait de rassembler comme ça toutes les familles de toutes les ethnies sur le même lieu, un moment de partage aussi important et aussi solennel, c'est vraiment très, très agréable.
Tous les dimanches, c'est bien. Mais là, c'était très bien avec tous ces jeunes qui ont bien chanté.
Ça fait plaisir de revoir, parce que nous venons de France aussi. On les connaît déjà de la France et ça fait plaisir de les revoir. Et c'était une belle célébration. C'est très varié.
Un propos recueilli ce matin par Kélinda Bouakou. Et rappelons que le 15 du Pacifique jouera deux matchs en Calédonie. Le premier, ce sera face au RC Mondor. Le second, face à la sélection calédonienne de rugby.
La Bretagne était à l'honneur hier soir à l'hippodrome Henri Millard de Nouméa. Ils étaient plus d'une centaine de personnes à s'être donné rendez-vous à une grande soirée fest-noz. Les Bretons et amis de la Bretagne ont pu profiter des spécialités, notamment les crêpes, les galettes, mais aussi les danses bretonnes.
On est en phase de communion avec l'univers et les dieux celtes.
Alors là, on nous a fait une initiation sur trois danses. Alors il y avait un Anterdro, un Rond Saint-Vincent et un Andro. C'est des danses en ligne. Voilà, c'est des danses assez faciles. Là, c'était une initiation pour apprendre les danses.
Un Andro, eh bien, c'est une danse bretonne, une danse qui tasse la terre.
Oh ben j'adore ça. Ça fait trois ans que je fais de la danse bretonne. C'est toujours très sympa de danser. J'adore ça.
Et voilà, j'aime bien. Et tous ensemble, voilà, ça permet de rencontrer des les gens, c'est rigolo.
Je prépare des galettes œufs jambon fromage, ce qu'on appelle la complète. Alors les galettes, c'est au chocolat, caramel au beurre salé, confiture de fraises, framboises et chocolat maison, à la base de farine de sarrasin. C'est une farine de blé noir, complètement traditionnelle breton.
Et notez qu'une partie des recettes de cette soirée sera reversée à la maison Gabriel Poëdi, la structure dédiée au polyhandicap à Nouville.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
En bref, après les manifestations contre le déménagement d'Air Calédonie à Tontouta, le trafic aérien domestique a repris aujourd'hui. Le mouvement aura duré 2 jours. De nouvelles actions sont annoncées le 2 mars prochain, jour où le déménagement de la compagnie doit être effectif. Ouvrons à présent l'agenda de la semaine qui va débuter demain. Semaine plutôt calme en termes de rendez-vous sur le territoire, mais qui sera importante à bien des égards pour la Nouvelle-Calédonie, Lionel Sabot.
Semaine importante pour le territoire à Paris. C'est en effet dans la nuit de mardi à mercredi pour nous que le projet de loi constitutionnelle relatif à la Nouvelle-Calédonie sera examiné en séance publique par le Sénat. Ce projet de texte a été adopté la semaine dernière par la Commission des lois du Sénat. Semaine importante également puisque c'est jeudi le 26 février à 18h, la date limite pour le dépôt des listes pour les élections municipales des 15 et 22 mars dans les communes de plus de 1000 habitants. Dans les plus petites communes, les candidats ont jusqu'au 7 mars à minuit pour déposer leur liste. Dans l'actualité municipale, justement, c'est mercredi que le conseil municipal de Nouméa examinera en séance publique le budget primitif 2026. Il s'agira bien évidemment du dernier budget de la mandature. Au chapitre institutionnel encore, c'est vendredi le 27 février que les élus de l'Assemblée de la province Nord se retrouveront pour examiner le budget primitif 2026 de la collectivité. Autre événement de la semaine qui commence, la mise en opération vendredi par Prony Resources de l'unité d'assèchement des résidus de Lucie sur le site de l'usine du Sud. Dans vos agendas également, le salon de l'environnement qui se tiendra vendredi et samedi prochain à l'hippodrome de Nouméa. Enfin samedi, la ville de Dimbéa organise la rentrée des associations. C'est de 8h30 à 12h30 au complexe sportif de Dimbéa Centre. Et puis un rendez-vous à noter sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Demain matin à 7h30, c'est Guilain de Coudenove, le directeur de la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche, qui sera notre invité du matin en direct depuis le Salon de l'Agriculture qui vient d'ouvrir ses portes à Paris.
Autre rendez-vous d'antenne à la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Jean-Pierre Jaiwe, le chef du groupe UNI au congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Émission également disponible en podcast sur notre site internet. Il est 17h passé de 57 minutes. Une pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sur la scène nationale et dans le monde.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal avec Mickaël Juneski.
L'actualité nationale, c'était hier soir pour nous l'inauguration du Salon de l'Agriculture à Paris. Le président de la République, Emmanuel Macron, était sur place. Une 62e édition du Salon symbolique, marquée par l'absence de bovins en raison de la dermatose nodulaire, toujours présente en métropole. Les politiques, eux, sont bien là, à un mois des municipales et à plus d'un an de la présidentielle. La plus grande ferme du monde devrait redevenir une scène politique majeure cette année. Arthur Delaborde pour Europe 1.
C'est une vitrine agricole, mais aussi un baromètre politique. Tous les camps se montrent au Salon de l'Agriculture pour exister, tester leur accueil. Le chef de file de Renaissance, Gabriel Attal, est par exemple attendu aujourd'hui, tout comme la présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Sarah Knafo, candidate reconquête à la mairie de Paris, était sur place dès hier. Marion Maréchal est-elle annoncée lundi. Chez LR, Bruno Retailleau, de son côté, devrait profiter du salon pour avancer ses pions. Candidat déclaré à la présidentielle, il pourrait détailler son programme agricole. Quant à Sébastien Lecornu, il entend imprimer son style. Première participation comme locataire de Matignon. Pas de visite fleuve, mais plusieurs passages pendant les 10 jours. Objectif, renouer le dialogue alors que la loi d'urgence agricole se fait attendre. Le texte promis après la crise de janvier devrait être présenté prochainement en Conseil des ministres. Il ne sera examiné au Sénat qu'en juin et à l'Assemblée pas avant juillet. Un calendrier encore fragile.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et on rappelle que la Nouvelle-Calédonie est présente dans l'espace des Outre-mer du Salon de l'Agriculture qui se déroulera durant 10 jours. Le remaniement ministériel, on le rappelle, a finalement été repoussé. Il devait être annoncé avant la date du 22 février, mais l'ajustement gouvernemental devrait intervenir courant de la semaine prochaine. Matignon devra notamment annoncer le nom de celui ou celle qui remplacera l'actuel ministre de la Culture, Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris. Notez que cette semaine, l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos sera Aurore Berger, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Une émission que vous retrouverez sur l'antenne d'RRB demain soir. Ce sera juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. En métropole toujours, en bref, près de 3000 personnes ont participé à Lyon à une marche en hommage à Quentin, un militant nationaliste de 23 ans lynché à mort il y a une dizaine de jours. Un rassemblement sous haute tension et encadré par un important dispositif de sécurité, ce qui a permis à l'hommage de se dérouler sans incident. L'actualité à l'étranger. Kiev, de nouveau la cible de bombardements. Des détonations ont retenti dans la capitale ukrainienne. Des assauts répétés, alors que d'ici 2 jours, cela fera 4 ans que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Depuis le 24 février 2022, la guerre a fait des centaines de milliers de morts des deux côtés. Des millions de civils ont fui le pays. Et pour ceux qui sont restés, leur quotidien est bouleversé. Le reportage de Wilfried De Villers pour Europe 1.
Il n'y a pas d'Ukrainiens qui n'ont pas perdu quelqu'un, qui ne connaissent pas la mort à cause de la guerre.
4 ans de conflits, de deuil, de bombardements et de privations. Ola, 28 ans, s'est bien habitué à vivre avec la guerre. Mais la douleur du quotidien est toujours là.
En termes psychologiques, parce que tous les jours on lit des actualités, tous les jours on voit des nécrologues, des portraits en noir et blanc. Ça influence énormément notre santé mentale. Physiquement, c'est difficile. Et il y a des frappes, des coupures d'électricité.
Les derniers bombardements russes ont plongé de nombreux quartier de Kiev dans le noir, privant les habitants de chauffage en plein cœur d'un hiver particulièrement rude. Si la guerre épuise, les Ukrainiens restent tout de même combatifs, affirme Anna. Pour cette habitante de Lviv, hors de question d'une capitulation aux conditions posées par Moscou.
On peut pas baisser les bras, on peut pas céder les territoires. On a perdu trop de vies. Comment peut-on regarder dans les yeux des mamans, des femmes, des soldats qui sont morts pour protéger cette terre? On est fatigué, c'est sûr. Bien sûr qu'on voudrait tellement arrêter les morts, arrêter les bombardements, mais pas par ce prix-là.
Anna dit rêver de paix, mais d'une paix qui respecte la dignité des Ukrainiens et offre un véritable avenir à son fils de 2 mois.
Wilfried De Villers pour Europe 1. Aujourd'hui, 20% du territoire ukrainien est occupé par la Russie. Washington et Moscou demandent à l'Ukraine de retirer ses troupes dans le Donbass. Dans le même temps, Donald Trump a annoncé la mise en place de nouveaux droits de douane à effet immédiat, plus 15% au lieu des 10% initialement prévus. Une réaction du président américain après le revers majeur infligé par la Cour suprême à sa politique commerciale agressive, jugée en grande partie illégale. Au Moyen-Orient, nouvelle démonstration de colère contre le régime des Mollahs. Des manifestations ont repris dans des universités de Téhéran hier, après plusieurs semaines de calme. Pour rappel, un soulèvement populaire contre le régime, le mois dernier, a fait 30 000 morts, selon plusieurs sources. Pour la première fois depuis la vague de protestations, des slogans appelant à la mort d'Ali Khamenei ont de nouveau retenti. Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, des dizaines, voire centaines d'étudiants crient leur colère. Ces manifestations étudiantes viennent s'ajouter à des cérémonie à la mémoire des victimes de la répression des 8 et 9 janvier dernier. Cérémonies qui ont eu lieu cette semaine à travers tout le pays.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Ouvéa, c'est le 103.5.
À l'actualité dans le Pacifique, les îles Fidji viennent d'annoncer qu'elles accueilleront cette année le 8e Festival de la Culture et des Arts Mélanésiens. Le point avec notre correspondant régional Jean-Pierre Zajac.
Un accord en ce sens vient d'être signé entre le ministre fidjien des Affaires indigènes, Ifeanyi Vassou, et le directeur général par intérim du secrétariat du groupe Fer de Lance mélanésien, Ilan Kiloy. Cet événement culturel majeur célébrera le patrimoine, les arts et les traditions du monde mélanésien, a déclaré Ifeanyi Vassou. les îles Fidji sont prêtes à perpétuer la tradition des célébrations mélanésiennes et à offrir un festival reflétant la richesse de la culture et le véritable esprit d'unité et d'identité du monde mélanésien, a-t-il poursuivi, avant d'annoncer que le festival se tiendra à Suva en fin d'année. La précédente édition avait eu lieu au Vanuatu en 2023. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 18h passé de 5 minutes, une dernière page de publicité dans ce journal et on voit tout le sport.
Et si vous repreniez la main sur vos compétences, sur votre avenir professionnel. Avec Scasi Formation, développez les compétences d'aujourd'hui et de demain. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le design et les métiers du digital. Ne vous laissez pas dépasser. Formez-vous, avancez. Scasi Formation, prenez votre destin professionnel en main. Appelez-nous au 26 20 69 ou rendez-vous sur formation.scasi.nc. Formations éligibles au financement.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La fin de votre journal Le Sport avec Mickaël Juneski.
Et c'est avec le rugby que nous ouvrons la page sport de ce journal. À suivre la nuit prochaine, le dernier match de la troisième journée du tournoi Destination.
Performance, engagement, dépassement de soi, entrez dans la mêlée des pages spéciales Tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et la nuit prochaine, l'équipe de France retrouve les pelouses de ce tournoi, les Bleus qui affronteront l'Italie, Lionel Sabot.
Oui, le 15 de France qui aborde d'ailleurs cette troisième journée en position de force. La France est la seule équipe encore invaincue dans le tournoi. Les Bleus qui pourraient prendre, en cas de succès, une sacrée option sur la victoire finale dans ce tournoi Destination 2026. Mais attention à ne pas sous-estimer cette équipe d'Italie qui réussit un très bon début de tournoi. Écoutez Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France.
On voit leur niveau qui croît d'année en année. C'est une équipe qui ne cesse de surprendre. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'utiliser le mot surprendre d'ailleurs, parce que maintenant ils sont dans la continuité depuis quelques années, à avoir des grands résultats, des gros matchs, pas toujours des victoires, mais toujours beaucoup de densité, et qui arrivent à avoir des matchs compliqués sur toutes les équipes qu'ils rencontrent. Donc oui, bien sûr, on se prépare de plus en plus maintenant qu'on les joue.
Un avertissement clair du capitaine, d'autant que les Bleus devront composer sans Mathieu Jalibert qui est forfait pour cette rencontre. Rencontre à suivre la nuit prochaine à partir de 2h10 du matin, ça va piquer. Ce matin, les deux autres rencontres ont livré leur verdict. L'Écosse a arraché une victoire en fin de match contre le Pays de Galles, 26 à 23. Les Écossais ont pris provisoirement la tête du classement général. L'Angleterre, elle, a subi une véritable correction à Twickenham. L'Irlande s'est imposée 42 à 21 sur la pelouse du 15 de la Rose. Et puis un petit mot de l'équipe de France des moins de 20 ans qui ont peut-être, et en tout cas on l'espère, ouvert la voie à leurs aînés ce matin, les Bleus qui se sont imposés 32 à 17 sur l'Italie bien sûr.
Jusqu'au 14 mars, suivez le tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Venons-en au football avec une double actualité. D'abord, Antoine Comboiré serait sur le point de reprendre du service en Ligue 1.
Le revoilà, le technicien calédonien qui devrait s'engager dans les heures, dans les jours qui viennent avec le Paris FC. C'est le deuxième club de la capitale revenu en Ligue 1 cette saison après 46 ans d'absence. Nouvelle mission. Sauvetage en vue donc pour Antoine Comboiré, puisque le Paris FC est actuellement 15e au classement, à 5 points seulement de la place de barragiste. L'information de ce retour relayée par l'équipe et le Parisien n'a pas encore été confirmée officiellement par le club, mais d'après des bruits de couloir ou de vestiaire, c'est comme vous voulez, la conclusion du dossier serait imminente. Antoine Comboiré, qui avait mis sa carrière entre parenthèses après son départ de Nantes, le temps notamment d'une opération du genou, devrait prendre la succession de Stéphane Gilly à la tête du Paris FC.
En attendant le possible retour de Comboiré sur les bancs de touche. On suit ce week-end la 23e journée du championnat de France.
Et figurez-vous que ce matin, le PSG, l'un des clubs d'Antoine Comboiré, a repris son fauteuil de leader. Les Parisiens ont dominé Metz, la lanterne rouge 3-0. Bussigné, Doué, Barcola et Ramos. Un peu plus tôt, Lens avait craqué à domicile face à Monaco. Les Lensois menaient pourtant 2-0 à l'heure de jeu. Oui, mais voilà, à la fin du temps réglementaire, 3 buts à 2 pour Monaco. Par ailleurs, le Paris FC a fait match nul face à Toulouse, un but partout. Cette 23e journée se se poursuivra demain matin pour nous avec 5 rencontres au programme. Auxerre recevra Rennes, Nice accueillera Lorient, Nantes jouera contre Le Havre, Angers défiera Lille et Strasbourg recevra l'Olympique Lyonnais.
La fin des JO d'hiver de Milan-Cortina. Après 2 semaines d'émotions, de médailles et de records, ces Jeux Olympiques s'achèvent demain matin pour nous. Il restera encore quelques médailles à distribuer, mais le compteur tricolore ne devrait pas évoluer. Christopher Filoc pour Europe 1.
En bobsleigh, le quatuor tricolore ne fait pas partie des prétendants à la médaille, tandis qu'en ski de fond, sur l'épreuve des 50 km, les représentantes françaises ne devraient pas pouvoir se mêler à la lutte pour le titre avec les Suédoises et les Norvégiennes. Mais avec un total de 23 médailles dans ces Jeux, c'est déjà le jackpot pour la délégation française. 2 médailles de plus que l'objectif annoncé. Une réussite que l'on doit notamment au biathlon. 13 médailles, dont 6 en or. Une razzia qui constitue un nouveau record pour l'équipe de France de biathlon aux Jeux d'hiver. Et pour clore cette quinzaine, pour la première fois, c'est un binôme qui représentera la France à la cérémonie de clôture. La biathlète Lou Jean Monod, 2 médailles d'or autour du cou pour ses premiers Jeux. Et Mathis Desloges, premier Français à remporter 3 médailles en ski de fond sur une seule édition olympique. Ils porteront le drapeau de la France lors du défilé des nations à Vérone.
Christopher Filoc pour Europe 1, la cérémonie de clôture qui se déroulera demain matin pour nous.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Le sport en Calédonie avec ce beau succès pour le Nea City Trail ce samedi soir. La rentrée des trailers qui s'est faite dans une belle ambiance au départ des boucles de Tina. Plus de 1200 personnes étaient au départ. Un vrai succès populaire sur cette course qui s'achevait en nocturne dans une ambiance festive et lumineuse. Julie Prunet, co-gérante de Pro Events, co-organisatrice.
Des beaux sourires, une belle équipe de bénévoles encore une fois, une belle dynamique de course comme on voulait faire. Rémora nous a fait un village vraiment magnifique sur les parcours et tout. On a vu des gens avec des papillons dans les yeux et tout ce qu'on voulait c'était des paillettes et avoir des sourires. C'est que le début, on est à la première étape, donc la deuxième étape c'est le 26 avril au Blue Bat Trail, pour le Blue Bat Trail au Yala Ranch. Donc on vous attend pour cette deuxième étape et avec des super beaux parcours qu'on est en train de vous préparer aux petits oignons.
Et hier sur le parcours phare de 15 km, la victoire est revenue à Florian Marot devant Tom Lacombe et Johan Souchu. Chez les féminines, la victoire est revenue à Emmanuel Favard devant Jessie Loyer et Clémence Graille. Ce Nea City Trail donnait également le coup d'envoi donc du tout premier Punch Power Trail Pro Tour, premier championnat des trails organisé par Pro Events avec 6 courses au programme au total. Événement en partenariat avec Radio Rythme Bleu. De la voile avec la reprise des régates croiseurs du CNC et Girouette skippé par Noah Ancian a remporté le classement hier C2 tandis que Kraken skippé par Cédric Bouchet a gagné le classement des IRC1 et le temps compensé en temps réel c'est Speed Marine et Puro Guilty Pleasure d'Alexandre Ruiz qui l'a emporté sur les régates en double. Kraken l'a emporté aujourd'hui en temps compensé et en temps réel. Et puis hors du territoire, des bonnes nouvelles en athlétisme avec Aurore Manoufekai qui est devenue championne de France hivernale des moins de 23 ans en lancer de poids avec un lancé à 14,87 m à son 4e essai. C'était lors d'un meeting à Nice. Performance encourageante à 1 semaine des France élites. Daniel Filitou Laga, autre Calédonien engagé, c'est lui qualifié 3 fois pour les finales au disque, au marteau et au poids. Il est 18h passé de 13 minutes. On termine ce journal avec la météo.
Socafort Peinture vous présente la météo. Socafort Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo, pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socafort Peinture, c'est à Ducos.
Et nous l'évoquions dès le début de cette édition, la pluie encore attendue, une majeure partie du nord de la Grande Terre, placée ce soir en vigilance orange, forte pluie orage, ainsi que Belep, le reste de la Grande Terre, les îles Loyauté et l'île des Pins en vigilance jaune. En clair, de la pluie pour cette nuit. Bonsoir Pierre.
Bonsoir. Ailleurs, les pluies seront d'abord plus modérées, hein, par contre, mais deviendront progressivement plus présentes au fil de la nuit. Le vent revient au secteur est. Hein, sur l'extrême sud, il soufflera entre 15 et 20 nœuds. Sur le nord-ouest, il mollira autour de 10 nœuds. Ailleurs, il s'établira entre 10 et 15 nœuds et des rafales resteront possibles à proximité des averses. Et les températures de cette nuit auront des valeurs comprises entre 22 et 24 degrés. Demain matin, le temps sera gris et pluvieux sur une large partie du territoire. Des précipitations parfois fortes et orageuses concerneront notamment le nord et l'est où les cumuls pourront être significatifs. Sur le nord, le vent s'orientera nord à nord-est entre 10 et 15 nœuds. Sur la pointe sud, l'île des Pins est marée. Le vent d'est-sud-est soufflera entre 15 15 et 20 nœuds. Ailleurs, il sera d'est à sud-est entre 10 et 15 nœuds. Côté mer, la mer sera haute ce soir à 23h48. Elle redescendra pour atteindre son plus bas niveau vers 5h34 et l'amplitude sera notable avec des hauteurs comprises entre 1m46 et 61 cm. Et côté ciel, le clair de lune atteindra 27,47% de luminosité, offrant une lumière douce entre deux nuages lorsque les éclaircies le permettront.
Merci beaucoup Pierre pour la météo et la technique. C'est la fin de ce journal.